Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Bonjour à toutes et tous, les Gones vous souhaitent une très belle année 2023 et vous propose de vous tenir au plus près de l'art, la beauté, la réflexion, le divertissement théâtral et cinématographique, la musique et son cortège de satisfaction et d'étonnement, loin des tracasseries ambiante. En nous écoutant régulièrement, vous devriez parvenir à maintenir ce cap, celui de vous faire du bien en cultivant votre curiosité. Au sommaire, une première émission pour 2023 sous le signe d'une équipe réduite, Guillaume et moi, pour vous parler d'amour et de rock'n'roll, tout un programme. On retrouvera notre amie Gaëlle, croqueuse d'exposition en tout genre, la semaine prochaine. Notre première invitée est conservatrice en chef au Musée des Beaux-Arts de Lyon et nous parle avec passion de l'amour vu par Nicolas Poussin. Guillaume sera accompagné de l'illustratrice Ludivine Stock qui nous parlera de l'exposition des planches originales du livre de Cédric Rassa, Rock'n'Roll Année Zéro, actuellement au théâtre Comédie Odéon, mais également d'un livre qui s'appelle Héroïne de Lyon. Et bien entendu, nous terminerons avec nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. On débute avec Nicolas Poussin et l'amour, exposition actuellement au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Nous avons rencontré Ludmila Virasamy Niakem, qui est conservatrice en peinture et sculpture ancienne. On l'écoute nous parler des spécificités de cette exposition, à voir encore jusqu'au 5 mars.
Nous sommes dans l'exposition consacrée à Poussin. Elle s'intitule « Poussin et l'amour ». On découvre une facette d'un Poussin méconnu.
Oui, tout à fait. Notre ambition au Musée des Beaux-Arts est de donner à redécouvrir, ou découvrir, c'est selon, un Poussin très séduisant, séducteur même, un Poussin qui peint des toiles très sensuelles, même érotiques dans certains cas, d'autres plus sentimentales, où le sentiment amoureux est très présent, puisque c'est un sujet qui irrigue son œuvre de la première œuvre connue, qui est conservée au Musée des Beaux-Arts de Lyon, La mort de Kyoné, jusqu'à la dernière œuvre qu'il laisse inachevée, ces deux œuvres étant les tenants et aboutissants de notre parcours.
Alors, ce qui est intéressant dans ce parcours, c'est qu'on voit des œuvres qui sont inédites également. C'est-à-dire que soit elles étaient conservées dans le privé, hein, tout simplement, soit dans des musées qu'on a peu visités. Donc, c'est tout l'intérêt aussi d'une exposition thématique comme celle consacrée à Poussin.
Alors, certaines œuvres sont présentées pour la première fois en France. D'autres le sont pour la première fois tout court. Hein. Elles ont été sorties d'appartements privés. Et beaucoup d'œuvres présentées dans l'exposition, même lorsqu'il s'avère que ce sont des chefs-d'œuvre, ont été très peu présentées dans les expositions consacrées à Poussin, parce que longtemps, les spécialistes de Poussin ont rechigné à admettre que des œuvres avec un contenu un peu licencieux puissent appartenir au corpus de ce maître qu'on cantonne souvent à la figure d'un grand peintre cérébral et très austère.
Alors en effet, cérébral, ça c'est sûr, hein, il en a cette réputation. On découvre ici des corps dénudés qui, à certaines époques, ont été recouverts, je crois.
Alors, on en a des témoignages, hein, dès le XVIIe siècle, du temps de Poussin déjà. Ces images pouvaient être appréciées de certains, mais en choquaient d'autres. Le contexte religieux pesait beaucoup, évidemment, dans ces sociétés. Et certains propriétaires ont repeint des parties, ont pu mettre des drapés pour cacher, y compris des sexes d'angelots, hein, de petits enfants. Ou même découper des toiles pour enlever la partie jugée trop impudique.
C'est complètement fou, hein, finalement, parce que quand on regarde ces œuvres, je suis au cœur de l'exposition, on ne trouve rien de véritablement choquant. On trouve, au contraire, je pense, beaucoup de tendresse. Il y a vraiment des gestes qui ne trompent pas, qui montrent finalement que Poussin était un grand amoureux.
Oui, tout à fait, de tendresse entre amants. Il y a aussi dans ces histoires d'amour, pour la plupart tirées des métamorphoses d'Ovide, donc de ce grand texte antique narrant les amours des dieux, l'amour filial qui est mis en scène également. Enfin, ça n'est jamais univoque. Il peut y avoir des suggestions un peu crues, des scènes qui prêtent à l'équivoque, mais vous avez raison, beaucoup de douceur, de tendresse et de plaisir de peindre dans ses œuvres.
Quel tableau vous retiendriez si vous deviez indiquer à nos auditeurs bien un tableau à ne rater sous aucun prétexte? Vous avez eu des prêts évidemment de musées très prestigieux, comme celui du Louvre, bien sûr, pour ne pas le citer, mais est-ce qu'il y en a un qui a retenu plus particulièrement votre attention?
Alors, nous avons la chance de réunir au Musée des Beaux-Arts de Lyon des œuvres prêtées par des musées européens, par des musées américains également, des chefs-d'œuvre pour beaucoup. Nous avons choisi comme affiche un tableau qui condense un peu toutes les dimensions présentes dans l'exposition, puisqu'il s'agit d'un tableau représentant Assis et Galatée. Donc Galatée était une naïade qui était éprise d'un jeune berger, Assis, alors qu'un cyclope terrible, Polyphème, avait des vues sur elle. Le tableau décrit le moment du bonheur partagé, du plaisir partagé, mais il a aussi une dimension très mélancolique puisqu'on voit ce cyclope esselé, Polyphème, qui va se venger bientôt et écraser Polyphème sous un rocher avant qu'il ne se transforme en fleuve. Et c'est un tableau, je crois, qui condense ces dimensions érotiques, sentimentales aussi, mélancoliques, puisque c'est souvent présent dans ces textes qui nous parlent d'amour, mais souvent aussi de mort. Car le aimer ou ne pas être aimé provoque souvent la mort dans ces histoires.
Je crois que Poussin a inspiré aussi de très nombreux artistes et il s'avère que le musée nous propose également une vision d'une bacchanale de Picasso. Est-ce que Picasso a été inspiré aussi par Nicolas Poussin ?
Oui, alors Nicolas Poussin a inspiré dès le XVIIe siècle des générations de peintres. C'est vraiment un grand rénovateur de la peinture par le contenu de ses œuvres, très complexe, très riche, mais aussi par le traitement qu'il y a appliqué. Et Cézanne, le premier, s'en réclame ouvertement dans ses propos. Et Picasso, à son tour, dont on sait qu'il était très savant, très féru de l'art des maîtres anciens, C'est réclamé de l'exemple de Poussin, et plus précisément à la fin de la guerre, en 1944, quand il prend pour modèle une bacchanale peinte par Poussin, qu'il va peindre à son tour. Alors malheureusement, l'œuvre n'existe plus, l'œuvre de Poussin, mais nous en présentons une copie. Et Poussin va être vraiment un ferment pour l'œuvre de Picasso lorsqu'il peint les bacchanales, lorsqu'il peint le corps féminin.
Alors on voit bien qu'il y a une grande filiation dans la peinture, hein, et c'est toujours ce que le musée des Beaux-Arts de Lyon a envie de montrer, en disant finalement ce sont des maîtres anciens, mais qui inspirent aussi notre modernité. On peut penser qu'à travers finalement Poussin et l'amour, eh bien, ça va inspirer encore pas mal de générations d'artistes, en tout cas on l'espère. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous avez jusqu'au 5 mars pour voir l'exposition Poussin et l'amour au musée des Beaux-Arts de Lyon. Et retrouvez la chronique de Gaël dans notre émission du 1er décembre. Nous poursuivons notre émission avec toi, Guillaume, et ton invité, Ludivine Stock, pour évoquer l'exposition des planches originales qui nous entoure ici, à la Comédie Odéon, du livre de Cédric Rassa, Rock'n'Roll, année zéro. Tu nous en as déjà parlé lors de chroniques. On est ravis, en fait, de voir le résultat qui est vraiment absolument époustouflant, hein, des sérigraphies en noir et blanc qui nous entourent. Une très belle exposition. On va parler également, bien sûr, de l'actualité complète de Ludivine Stock avec Héroïne de Lyon également. Je te laisse la place avec ton invité.
Merci, bonsoir Ludivine. Effectivement, grosse actualité chargée avec de la BD et des illustrations. On va commencer par cette BD qui est donc sortie maintenant depuis un mois, je crois, à peu
novembre,
près. Voilà, c'est ça.
Novembre.
Fin novembre. Héroïne de Lyon. Il y avait déjà un premier tome qui était consacré aux femmes déjà de Lyon. Et là, ça s'intitule Héroïne de Lyon. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, moi, j'ai découvert beaucoup de femmes. En fait, je ne les connaissais pas du tout, ces femmes, à part peut-être Pauline Jaricot, parce qu'il y a la maison dont on parlait en aparté tout à l'heure. Et voilà, donc ces jeunes femmes, toi, tu as été finalement la personne qui a dessiné une histoire, mais tu as aussi été chargée finalement de recruter, si j'ose dire, d'autres illustrateurs. Alors déjà, comment tu as choisi le personnage, et puis comment tu as choisi aussi les illustrateurs qui t'accompagnent sur cette BD?
Alors, cette BD, c'est effectivement un nouvel opus. Je dirais pas un tome 2, parce que c'est, on peut lire les albums indépendamment les uns des autres. Le précédent s'appelait Lyonnaise d'exception. Il est paru l'année dernière aux éditions Lyon Capital. Ouais. Et les deux sont des collectifs, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une autrice ou un auteur de bande dessinée ou un binôme scénariste-dessinateur-dessinatrice qui s'empare d'une histoire, d'une biographie en 7 planches avec une petite introduction historique aussi qui est très bien faite et qui permet de basculer tout de suite dans le cœur des événements lyonnais et des personnages. Les biographies sont, puisque là je vais citer les gens de l'album, les biographies ont été rédigées par Nadège Druskowski et ensuite on est 8 autrices et auteurs sur cet album pour 7 portraits.
Oui, ce que je trouve passionnant dans cet ouvrage, c'est que c'est pas seulement une BD, c'est-à-dire qu'effectivement, on apprend plein de choses grâce aux illustrations, à la BD, à l'histoire de ces personnages, mais il y a cette partie biographie historique. Donc ça, c'est très important, c'est une très belle introduction pour ensuite lire finalement cette BD qui est assez... évidemment, c'est pas une BD qui va durer des pages et des pages, puisqu'il y a, comme tu viens de le dire, 7 personnages.
Ce sont des récits complets, à chaque fois.
Voilà. Ouais. Mais quand même, ce sont des récits complets. Ça me fait un petit peu penser, dans certains journaux de bande dessinée, il y a des histoires complètes en 3-4 pages, 5 pages, et voilà. Sauf que là, ce sont des femmes importantes de la vie lyonnaise, mais que j'avoue que j'ai complètement découvert. Alors toi, tu as dessiné sur une femme que je connaissais vaguement parce que j'avais entendu parler d'elle grâce à Baudelaire ou grâce à la métrique un peu particulière, donc une poétesse. Oui. Tu peux nous en parler. Et puis pourquoi ce choix, toi ?
Alors, Marceline Desbordes-Valmore, elle s'appelle. C'est une poétesse, une des premières poétesses romantiques qui a été reconnue un petit peu sur le tard, puisqu'on date le début du romantisme de Lamartine. En 1821, elle a commencé à publier en 1819. Elle est rattachée à Lyon, alors ce n'est pas une Lyonnaise, mais elle est rattachée à Lyon de cœur et de travail, puisqu'elle était comédienne, elle a eu une carrière de comédienne, ce qui est le chant aussi, et donc elle a joué au grand théâtre de Lyon dans les années 1820. Et puis elle a fait 3 séjours à Lyon et elle y est revenue. Les dernières fois qu'elle y est revenue, elle était poétesse à part entière. C'est-à-dire qu'elle a consacré ensuite sa vie à sa famille, à l'écriture. Ce qui m'a intéressée dans son approche de Lyon, en fait, c'est qu'elle s'est retrouvée, malgré elle, au cœur d'événements de conflits, en fait, parce que Lyon au 19e siècle a été, 19e et début 20e, a été traversée par pas mal de conflits. Or, les deux guerres mondiales, au 19e siècle, il y a vraiment les conflits sociaux et le réveil des consciences ouvrières, notamment.
Avec les deux révoltes des Canuts.
Et Marceline Desbordes-Valmore habitait Place des Terreaux. Elle habitait juste à l'angle de la Place des Terreaux. Et donc, sa fenêtre au dernier étage donnait sur la place. Et elle a donc vécu la révolte des Canuts, mais elle a aussi vécu en direct la répression militaire. C'est-à-dire que l'armée de Louis-Philippe a envoyé l'armée et ça s'est très mal terminé puisqu'il y a eu à peu près 600 morts, il y a eu des milliers d'arrestations avec des gens qui ont été déportés au bagne. Et elle était dans une, je pense, on ne peut qu'imaginer dans quel état elle était, mais dans un sentiment peut-être d'impuissance derrière sa fenêtre et surtout d'indignation. C'est ce qui est vraiment ressorti des poèmes qu'elle a écrits et c'est ça qui en fait une héroïne et une pionnière pour le coup. C'est qu'en fait, elle, alors que la censure menaçait, puisqu'à l'époque la presse était vraiment sous le coup de cette menace-là, elle n'a pas hésité à écrire son indignation contre la répression. Ce sont des poèmes qui n'ont pas tous été publiés au moment où elle les a écrits. Certains qui ont été publiés dans des revues par ses amis éditeurs lyonnais, dont il y avait un monsieur Boitel qui réunissait, des cercles littéraires. Et ensuite, ça a été republié dans des recueils de poésie plus tardivement et certains après sa mort même. Aragon a même dit d'elle que pour un de ses poèmes qui s'appelle Dans la rue, il considérait que c'était un des premiers poèmes de la résistance. Donc on est bien avant la Seconde Guerre mondiale et c'est là où c'est intéressant aussi les correspondances qu'il peut y avoir entre les vies et les parcours des personnages dans le bouquin. C'est que du coup elles ont les mêmes aspirations, elles traversent des conflits qui sont différents, les périodes sont différentes mais les problématiques restent les mêmes. commence l'album, on ouvre l'album avec Marceline Desportes-Valmore sur ses poèmes de résistance et on les termine avec Laure Diebold qui était la secrétaire de Jean Moulin.
De Jean Moulin, tout à fait.
Et qui, elle, était une résistante aussi détentrice du secret des armées des ombres.
Et voilà. Donc, comme tu dis, il y a plein de liens en fait qui se créent entre les personnages. Là, je viens d'ouvrir le livre et il y a Philomène Rosan qui, elle, au contraire, a mené la première grève des femmes ouvrières. Donc, voilà, donc il y a vraiment ça. Et je trouve que alors, ce qui est passionnant quand je t'écoute, c'est que j'ai l'impression que tu as dû faire beaucoup de recherches, puisque je suppose, comme lecteur, ben, moi je ne connaissais pas ces personnages. Donc ce qui fait que toi aussi, tu as beaucoup appris en essayant de faire des recherches. Hein, voilà. Et puis en même temps, il y a quand même quelque chose de très... Ben, ce sont toutes des femmes, donc je suppose qu'il y a aussi cette idée un peu militant, voilà, de la cause féministe, parce que toutes ces femmes, elles ont été invisibilisées en fait de l'histoire. Hein. Ok, Pauline Jaricot à Lyon, elle est un peu connue, il y a une maison, il y a sa rue, enfin voilà. Mais les autres, elles ont disparu complètement, et c'est bien de les faire revivre.
C'est un peu ça le principe depuis l'album précédent, c'est que tout ça est parti d'un constat qui est pas le nôtre exclusivement, hein, c'est un constat général, et c'est bien qu'on puisse déjà se retrouver sur le constat des inégalités pour ensuite pouvoir faire des choses ensemble, c'est-à-dire comprendre où sont les problèmes, parce que si on n'a pas le même constat, les mêmes analyses, en fait, c'est compliqué après de trouver des solutions en commun. Pour ce qui me concerne, par exemple, moi j'ai beaucoup manqué de ces modèles-là de représentation féminine quand j'étais petite, que ce soit en BD, en littérature ou même au cinéma, c'est-à-dire le fait que le protagoniste principal de l'histoire soit une femme. Et donc on a grandi avec des modèles qu'on devait trouver dans des personnages secondaires, qui étaient toujours à la périphérie, là où les garçons étaient centraux, les filles étaient à la périphérie, là où les garçons étaient des individus, les filles étaient des stéréotypes, et là où les garçons remportaient le match, on va dire, les filles restaient sur le banc de touche, quoi. Ce qui m'a plu l'année dernière quand Lyonnaise d'exception est sortie, c'est qu'en même temps il y a un livre de Titou Lecoq qui est sorti aussi sur les femmes oubliées de l'histoire, les grandes oubliées de l'histoire, et je trouve que c'est vraiment une résonance là actuelle très très forte. J'espère que c'est un mouvement qui va continuer. On a besoin de ça pour renouveler ces modèles qui sont pour la plupart évidemment des modèles d'émancipation qu'on a eu du mal à identifier parce que les sources sont, si elles sont présentes, elles sont très peu exploitées. C'est-à-dire que là, l'album a été fait en partenariat avec les archives municipales. Eux-mêmes nous ont dit que dans le siècle précédent, en fait, la plupart des gens qui travaillaient aux archives étaient des hommes durant le 20e siècle. Et quand ils voyaient arriver des documents qu'on venait leur confier ou des dons, des legs qui concernaient des femmes, en fait, ils disaient c'est pas intéressant et donc c'était pas inventorié, en fait. Donc il y a plein de choses qui sont aux archives et qui sont encore à inventorier, et les archives font aussi un travail formidable pour ça. Ils nous ont vraiment très bien accompagné, c'était nécessaire pour la précision historique sur cet album. Cet album est inclusif dans le sens où ce sont des portraits de femmes qui sont racontés par des femmes et des hommes. Donc il y a une mixité des autrices et des auteurs, et ça, on y tenait énormément. Pour moi, c'est génial cet album parce que c'est tout ce que moi j'ai pas eu quand j'étais petite. C'est-à-dire qu'il y a des modèles de transmission et surtout des modèles variés avec des caractères bien différents qui permettent un choix pour l'identification des filles et des femmes. Et je pense que c'est aussi un album qui, évidemment, va intéresser les garçons et les hommes, parce que c'est dans la variété, je pense, qu'on peut se construire.
Tout à fait. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, on a entendu la personne du Musée des Beaux-Arts à propos de Poussin. Et voilà, dans la peinture, c'est pareil. Enfin, si on devait... Alors, au 21e siècle, on a quelques peintres féminins qu'on connaît. Mais au 19e, au 18e, voilà, de l'époque de Poussin, Poussin qui a dit que le Caravage avait détruit la peinture, était là pour détruire la peinture. Bon, mais qui connaît Artemisia Gentileschi? Peu de gens, en fait. Et c'est exactement la même idée. C'est les gens qui ont été invisibilisés. Et donc, heureusement qu'il y a des expos, heureusement qu'il y a des bandes dessinées pour justement faire émerger tout ça. On rappelle quand même le titre de l'ouvrage, Héroïne de Lyon, aux éditions Long Capital. Ça se trouve dans les librairies, mais ça se trouve aussi dans les relais H, des choses comme ça. Voilà,
ouais, tout à fait. Voilà. On a une bonne diffusion par Long Capital.
C'est vraiment un ouvrage très peu régional. Cher. Ouais, 14,90 €. Voilà. On revient avec Ludivine Stock qui a d'autres choses à nous dire à propos d'un énorme ouvrage, une somme écrite par un auteur lyonnaiso-parisien.
C'est ça.
Qui s'appelle Cédric Rassa. Donc son livre, qui est un pavé rouge, rouge sang, Rock'n'Roll année au pluriel zéro, histoire d'Amérique, de Los Angeles à New York, puisque c'est le tome 1 de cette somme. Alors, ce livre évoque le rock'n'roll, évidemment. Beaucoup ont dit que le rock'n'roll était mort à la suite du suicide de Kurt Cobain, mais en fait, Cédric nous invite à repenser tout cela. Et toi, donc, tu as participé à ce livre parce que tu as illustré les différents portraits des groupes ou rockers de cet ouvrage. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment vous avez travaillé sur ces portraits? Pourquoi tu as choisi certains artistes plutôt que d'autres? Et puis évidemment, tu pourras nous parler aussi de tes camarades, hein, d'illustration.
Un projet que Cédric porte depuis longtemps. Et donc là, c'est vraiment chouette de voir cet aboutissement parce que c'est un travail de plusieurs années pour lui. Il nous a réunis, on est quatre illustrateurs, hein, sur ce projet, nous invitant à choisir, et c'est ça qui était bien aussi, à choisir les groupes qu'on voulait, les groupes chanteurs ou chanteuses qu'on voulait illustrer. Le principe du livre, c'est qu'il est composé de chapitres qui chacun sont dédiés à un groupe de musique. Comme Cédric est quelqu'un qui fait aussi beaucoup de correspondance et que c'est un cinéphile accompli, il a donné à chaque chapitre le titre d'un film, en rapport évidemment avec les interviews des groupes qu'il a fait et ce que racontent les groupes dans ces interviews. Donc nous, on avait côté illustration une double contrainte, c'était que chaque chapitre devait être illustré pour raconter un petit peu la sensibilité musicale du groupe, un peu son environnement aussi géographique, puisque c'est aussi ce principe du bouquin, hein, c'est une grande balade, une grande trajectoire à travers les États-Unis par la musique. Mais il fallait aussi qu'on tienne compte de ce titre de chapitre cinéphile. Et c'était une contrainte forte et ça a permis en fait beaucoup, beaucoup de liberté et d'aller peut-être sur des chemins que moi, pour ma part, je n'aurais peut-être pas pensé à aller voir ou à emprunter si j'avais eu carte blanche. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'effectivement, c'est une balade américaine. Hein, voilà. D'habitude, on va d'est en ouest. Là, au contraire, on va d'ouest en est. Et on découvre beaucoup de groupes, finalement, qu'on ne connaissait pas. Alors, pour citer quand même quelques groupes, certains connaissent Elliott Smith, d'autres connaissent les Strokes. Et puis, il y a plein d'autres groupes, finalement, qui sont de l'histoire de la musique importante pour Cédric. C'est ses choix. On pourrait faire d'autres choix. Mais voilà, ça permet une grosse découverte. Ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que ce n'est pas un dictionnaire. C'est un énorme livre. C'est la somme de 12 années de travail. Et grâce à ce livre, eh bien, on va écouter davantage de musique parce qu'il y a une masse de renseignements, de recoupements. Moi, j'aime beaucoup le mot correspondance. Ça me fait penser, évidemment, à la poésie, d'accord,
oui.
Voilà, et effectivement, c'est ça, parce qu'on va écouter de la musique, on va lire, et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un ouvrage qui est excessivement bien écrit aussi, parce que c'est vraiment le travail d'un écrivain, et moi, je trouve que c'est assez passionnant. Alors, il m'en voudra pas si je compare ça un petit peu à Umberto Eco, peut-être, je sais pas, il y a quelque chose d'Umberto Eco dans son ouvrage, ou alors peut-être du Stendhal aussi, qui se balade en Italie et qui raconte un petit peu tout ça. Ici, on est au Théâtre Comédie Odéon, et il y a cette exposition. Tu peux nous parler de la...
D'essayer visuellement de retraduire moi l'émotion que j'avais eue musicalement à les écouter. Donc après, c'est le travail de chaque illustrateur d'arriver à proposer quelque chose. Et je trouve que cette exposition présente nos quatre sensibilités d'illustrateurs et d'illustratrices de manière assez cohérente. Mais ça rejoint la cohérence qu'il y a dans le livre et qui était souhaitée par Cédric, c'est-à-dire exclusivement du noir et blanc. On a trois ou quatre groupes chacun qu'on a illustrés. Et puis ce principe du retour aussi au papier, à la sérigraphie, à cette impression artisanale qui est faite là pour le coup par Olivier Bral, qui est sérigraphe à la Croix-Rousse et qui a fait un travail magnifique sur les tirages sérigraphiques. Donc voilà, cette exposition, elle a été rendue possible grâce à l'invitation du Théâtre Comédie Odéon, qu'on remercie bien fort, et puis à l'accueil de leurs équipes aussi, sur l'exposition, sur la rencontre dédicace qui va avoir lieu le 14 janvier.
Le samedi 14 janvier.
Voilà, samedi 14 janvier. Et pour le coup, on sera presque au complet dans l'équipe, c'est-à-dire qu'il y aura Cédric qui sera là, Cédric Rassa, il y aura Emre Oroun, Raphaël Gauthet et moi-même pour ce qui est la partie illustration. Et puis, on pensera très fort à notre camarade Jean-Luc Navette qui pourra pas être parmi nous. Et puis, je voulais souligner aussi que sur le livre, il y a un travail remarquable qui a été fait à la maquette par Pascal Bluat, qui est graphiste. Et étant graphiste moi-même, je peux que m'enthousiasmer de voir que une qualité de contenu est aussi mise en forme par une qualité graphique et typographique qui permet de faire oublier le pavé des 600 pages. Et donc pour une expo où c'est vrai qu'on passe, on regarde, et pas un livre qu'on passe où on peut mettre le nez dedans pendant des heures, c'était bien que les gens puissent tout de suite être immergés en fait dans l'univers du livre.
Bien sûr, visible par tout le monde.
Elle est là jusqu'au 31 janvier. Voilà.
Et la dédicace, c'est le samedi 14 janvier avec donc 3 illustrateurs sur 4 et Cédric Rassa.
C'est le samedi 14 janvier, c'est de 17h à 19h, c'est une rencontre dédicace.
Ah oui,
c'est-à-dire qu'on aura le temps d'échanger avec le public, Cédric présentera l'album et puis ensuite effectivement il y aura un temps de dédicace.
Merci beaucoup.
Ben, merci, 14, c'est moi qui vous remercie.
Nous poursuivons notre émission et évidemment les bonnes habitudes ne se perdent pas. En 2023 aussi, on garde ce qui marche, c'est-à-dire les Gédéons, nos coups de cœur du moment. On va terminer comme ça tous les deux, Guillaume. Qu'est-ce que tu as à nous proposer cette semaine?
Alors moi, cette semaine, je vais reparler de musique, contrairement aux autres semaines où j'avais évoqué des livres. Pourquoi? Parce que vient de sortir un nouveau titre d'un artiste lyonnais qui s'appelle Martin Luminet, qui s'apprête à sortir son premier album, qui s'intitule Deuil au pluriel, un petit peu comme le livre de Cédric Rassa, la même typographie finalement. Donc ce premier album sort le 17 février, mais il sort un nouveau titre, en fait, extrait de cet album qui s'intitule Étouffé. Alors il y a un petit jeu de mots, hein, étouffé, parce que c'est une chanson assez triste, une histoire de séparation. D'ailleurs, il pose une question dans cette chanson: vaut-il mieux être heureux qu'amoureux? Vous voyez que ça pourrait être une discussion philosophique assez longue. Et puis dans le refrain, j'ai tout fait pour te plaire, j'ai tout fait. Ouais. Vous voyez un petit peu à quoi
je
fais allusion. Voilà, étouffé. Mm-hmm. Donc c'est vraiment...
Est-ce qu'il y aura un clip?
Le clip est déjà sorti. Il est magnifique parce que c'est une sorte de long plan séquence. J'en dis pas plus, il faut aller le découvrir.
Je le mettrai sur le site.
Ah, mais complètement, en plus, c'est assez renversant.
Et
vous penserez bien à ce mot, c'est renversant.
D'accord. Donc, alors on va plutôt avoir le clip en référence plutôt qu'un extrait, si
tout
tu
à
veux
fait,
bien. Comme
tout
ça,
fait.
On le mettra.
Et on peut peut-être quand même évoquer quelques dates de concert, parce qu'il fait une tournée cet hiver, mais qui passera pendant le printemps aussi à la Maroquinerie à Paris le 21 mars et le 23 mars au CCO à Villeurbanne. Donc je vous invite à aller redécouvrir Martin Luminet. Il avait fait la première partie de Clara Luciani au Transborder durant le festival Les Champs de Mars et c'était bien mieux que Clara Luciani, il faut le dire.
C'est un avis très personnel,
tout à fait,
Guillaume.
Mais c'est le mien.
Merci beaucoup pour ce coup de cœur. Moi aussi, du coup, je te fais de la concurrence. Pour ma part, cette semaine, je te fais concurrence, Guillaume, avec un concert dans la petite salle du bas des pentes, à côté du métro Croix-Paquet. Vous voyez, mes chers auditeurs, à tout bout de champ, évidemment. Le Noiseur sera en concert le jeudi 26 janvier. On écoute tout de suite un extrait qui s'appelle Relax. Je ne mettrai pas Relax pour faire référence évidemment à quelques titres célèbres. En tout cas, elle s'appelle Relax et c'est un titre éponyme de son deuxième album. On l'écoute et on revient juste après.
Tu regarderas plus jamais le ciel, t'écouteras plus jamais le vent, tu diras plus la vie est belle. Comme avant. T'attends quelqu'un qui viendra plus. Tu peux courir, tu seras déçu. On retrouve pas les années perdues. Et la vie, elle continue. Mais relax, tout roule. Tu verras, ouais, c'est cool. Relax, tout roule. Tu verras, la vie sera cool. Comme avant. Tout à fait, à présent. Comme avant. Mais plus tout à fait, maintenant. Tu sortiras plus par la fenêtre pour pas réveiller tes parents. Tu pourras plus jamais renaître comme avant. T'attends quelqu'un qui viendra plus. Tu peux courir, tu seras déçu. On retrouve pas les années perdues. Et la vie, elle continue. Mais relax, tout roule. Tu verras, ouais, c'est cool. Relax, tout roule. Tu verras, y aura plus de tempête, de roulette russe, de temps qui presse. Y aura moins de tendresse, de doux regards et de caresses. Mais relax, ton rouleau, tu verras, ouais, c'est cool. Relax, ton rouleau, tu verras, la vie sera cool. Comme avant, mais plus tout à fait à présent. Comme avant, mais plus tout à fait.
Après un premier disque remarqué, Du bout des lèvres, sorti en 2015, Simon Compocasso, alias Le Noiseur, revient avec son deuxième album, le bien nommé Relax. Écrit et composé, pour la plupart en 2020, année pas très érotique, il faut bien le dire. Les chansons qui le composent poursuivent la trajectoire initiée sur l'EP Musique de Chambre, sorti il y a quelques mois, et qui comptabilise déjà plusieurs millions de streams. Effectivement, Le Noiseur, ça cartonne, on peut le dire. Il sera en concert le jeudi 26 janvier dans cette toute petite salle en intimité, ça va être vraiment top, à tout bout de champ, en bas des pentes, je le rappelle, de la Croix-Rousse, rue Croix-Paquet. Enfin non, à côté du métro Croix-Paquet, puisque la rue, c'est une rue qui ne débouche pas, c'est la rue de Toux qui donne le nom à la salle. Allez, on vous invite à aller écouter en petit nombre, en petit comité, Le Noiseur. Je pense que ça va être une belle fête pour ce concert. Merci beaucoup, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.